Cet après-midi, j'aimerais partager avec vous ce thème qui est une église témoin. Le texte de démarrage de notre méditation se trouve dans le livre des Actes au chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, verset 8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » J'aimerais partager avec vous sur ce thème, sur trois axes particuliers principaux. Le premier, une église qui reçoit la puissance du Saint-Esprit. Deuxième point, une église qui manifeste la présence du Saint-Esprit. Et troisième point, une église qui est témoin. La première chose que je me suis posée comme question, c'est de quelle puissance s'agit-il? Très souvent, on est fixé sur un seul type de besoin et de nécessité. On considère que la puissance dont nous avons besoin, c'est celle d'opérer des miracles. Et certes, elle est nécessaire. Mais est-ce que le Saint-Esprit va se limiter que à cela? Alors, de quoi la parole de Dieu nous parle? Alors, j'ai retrouvé différents textes qui peuvent nous donner et des pistes de réflexion, mais en même temps pour nous, aussi des pistes d'encouragement, puisque parfois on peut avoir le sentiment de ne pas avoir reçu cette puissance dans notre vie, parce qu'on n'a pas été des instruments pour un miracle, pour une guérison ou quelque chose d'éclatant. Et pourtant, là où nous sommes, nous pouvons et nous sommes un instrument de Dieu pour que sa puissance se manifeste. La première chose que la puissance du Saint-Esprit réalise dans notre vie, c'est de nous donner le courage de repousser le péché. Ce n'est pas une chose facile, croyons-le, parce qu'on se trouve en réalité face à un ennemi qui, plus le temps passe, plus essaye de travailler les cœurs et de les amener à une vie de péché. Nous avons nous-mêmes vécu bien longtemps sous le pouvoir du péché. Alors, quand on s'attaque au péché, certains pourraient avoir le sentiment qu'on s'attaque à leur liberté, alors que ce n'est pas du tout le cas. La réalité, c'est que le péché amène à la mort. Et la véritable liberté, celle qui nous est donnée par Jésus-Christ, par le sacrifice de la croix. Alors, partager aux autres ce que Christ a fait pour nous, c'est aussi les aider à connaître et à vivre cette liberté. Michée chapitre 3, verset 8, le prophète Michée chapitre 3, verset 8, il dit « Mais moi, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. J'ai le droit et le courage de faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » La première chose que le Saint-Esprit produit dans notre vie, c'est ce courage et cette force, en réalité, de nous opposer au péché déjà dans notre vie personnelle, mais aussi de communiquer à ceux qui sont autour de nous, de ceux qui sont dans notre entourage et à ceux qu'on a la possibilité, de leur dire que le péché n'est pas quelque chose qui va leur donner de bonnes choses dans leur vie, mais qui va plutôt les détruire. Et cela, ça nous oppose à l'action de l'ennemi. Une deuxième chose que le Saint-Esprit apporte dans notre vie, il dit la parole de Dieu qu'il a une puissance plus forte que toute force physique. Amen. On n'a pas à penser à régler nos problèmes avec les muscles, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, il est question du combat qui n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Alors comment nous régler le problème? Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Il dit « Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zérobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, des armées. » Alors, on considère davantage la responsabilité qui est la nôtre, mais qui ne se base pas sur nos propres forces, quelle qu'il soit l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Parfois, on pourrait, et c'est certes, on se sent incapable de remplir les fonctions que Dieu nous demande. On se dit, Seigneur, pourquoi moi? Il y en a d'autres qui sont bien plus capables. On connaît ce dialogue, cet échange entre Moïse et Dieu. Moïse qui se présentera devant Dieu, il dira, mais non, non, c'est pas moi. Regarde, j'ai même un problème au niveau du langage. Mais qu'est-ce qui empêche Dieu de guérir? Et d'ailleurs, tout ce que Moïse a pu faire pour amener Pharaon à voir la puissance de Dieu, est-ce que ça venait de Moïse ou est-ce que ça venait de Dieu? Et je crois qu'au moment venu, Dieu saura nous donner ce que nous avons besoin. Mais il est question pour nous déjà de prendre ce courage et de nous dire, Seigneur, ce n'est pas sur des forces humaines que nous comptons, mais Seigneur, nous comptons sur l'action et l'œuvre de l'Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance qui répand l'Évangile. D'ailleurs, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 14 et 15, Luc chapitre 4, versets 14 et 15, il nous est dit « Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. » Combien nous avons, nous aussi, frères et sœurs, besoin véritablement d'être investi de la puissance du Saint-Esprit pour répandre l'Évangile. Il y a tellement de questions face à quel monde tel que nous le vivons, et davantage aujourd'hui avec les problèmes que nous nous retrouvons à faire face, n'est-ce pas? Plein de questions sur pourquoi, sur comment, jusqu'à quand. Et si on devait chercher les réponses par nous-mêmes, on serait vite limité en réponses. On risquerait d'avoir des réponses peut-être même toutes faites, n'est-ce pas? Mais quand Jésus enseigne, quand Jésus parle, on voit qu'il y a une connaissance qui vient d'en haut. Et je crois que chacun de nous, nous aspirons et nous désirons avoir cette connaissance qui vient d'en haut, cette sagesse qui vient d'en haut. Et ça ne peut pas se baser sur les années d'études, même si c'est important d'étudier, certes. Nous avons chacun d'entre nous, le besoin, mais aussi la responsabilité de placer nos regards dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous rappelle ce que la Bible elle dit, n'est-ce pas? Mais pour nous le rappeler, il faut que nous ayons aussi pris le temps de le lire. Il n'est pas question pour nous d'inventer une nouvelle version biblique. La Bible selon un tel ou un tel. Non, il est question de connaître ce que la parole de Dieu dit. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui agira pour nous donner la réponse que vient de Dieu. Le Saint-Esprit est aussi une puissance qui accompagne le baptême dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, si nous faisons la lecture ensemble de Actes chapitre 2, versets 2 à 4, Actes chapitre 2, les versets 2 à 4, il nous dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le baptême du Saint-Esprit, dès le départ, s'y est manifesté d'une manière particulière. Et encore aujourd'hui, nous attestons que le fait de parler en langue, c'est le signe évident d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui fait que nous pouvons en réalité nous approcher de Dieu? Bien évidemment, c'est le Saint-Esprit qui œuvre pour que notre cœur à nouveau, soit à la recherche de son Seigneur, de son Sauveur, et rattacher le dialogue, mais aussi la relation avec Dieu. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, il n'y a pas de conversion. Une adhésion peut-être, mais pas de conversion. Néanmoins, la nouvelle naissance est une chose, le baptême dans le Saint-Esprit en est une autre. Et c'est une réalité qu'on a besoin de vivre. Et la parole de Dieu nous enseigne que le signe qui fait preuve du fait d'avoir reçu le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Et cela n'est pas une option, c'est une nécessité. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire je n'ai ou pas besoin. Ce n'est même pas discuté. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dira à ses disciples, ne bougez pas de Jérusalem tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Et de quelle manière le Saint-Esprit va se manifester? Je dirais d'une manière puissante. Combien d'entre nous aimeraient encore aujourd'hui vivre le jour de la Pentecôte? Amen. Parce que là, toute barrière, toute crainte, toute, je dirais, obstacle qui pourrait venir, surtout de nous, il serait balayé. Mais est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Oui. Et il est question pour nous de nous dire, Seigneur, je me rends à toi, et tout obstacle qui, Seigneur, empêche de vivre cette promesse, puisque c'est une promesse, Jésus dira, je pars et c'est bien pour vous. Parce que ainsi le Père vous enverra le Consolateur. C'est une condition. Jésus a accepté de quitter ses disciples, de retrouver sa place auprès du Père, mais son amour aurait été pas normal s'il n'avait pas prévu, en réalité, de continuer à être présent, pas seulement auprès de ses disciples qu'ils avaient partagé avec lui 3 ans, mais encore avec nous aujourd'hui. C'est un besoin d'avoir Jésus à nos côtés, il nous l'a promis. Je serai avec vous tous les jours. Et pour cela, nous avons besoin de rechercher et de vivre le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est aussi une puissance qui permet de parler avec autorité. D'ailleurs, dans le livre des Actes, au chapitre 4, le verset 33, Actes, chapitre 4, verset 33, il nous est dit avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. On pourrait souvent être interpellé par ces textes en pensant que c'était une nécessité pour les apôtres puisqu'ils étaient appelés à prêcher. Mais si je fais bien attention à ce que nous venons de lire, il est question de témoignage. Alors, qui doit témoigner? Ça veut dire que l'action du Saint-Esprit, elle doit être pour nous tous une priorité pour pouvoir accomplir l'œuvre du témoignage. Parce qu'autrement, on n'apporterait, on partagerait que des paroles. Et d'ailleurs, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, après, certes, permet aussi d'accomplir des miracles. Moi, je bénis le Seigneur parce que si tout se limitait qu'au miracle, on pourrait se sentir, frères et sœurs, exclus de ce que Dieu a prévu pour nous. Mais je crois et j'ai connu des hommes qui ont, par eux-mêmes, jamais vécu peut-être un miracle, mais combien de conversions? Est-ce que ce n'est pas un miracle, la conversion? Et peut-être qu'ils n'ont pas vu le fruit et la réponse à leur prière. Pourtant, Dieu a accompli des miracles. Mais ils n'ont pas eu la même joie que les disciples ont pu avoir en voyant des paralytiques se mettre debout, n'est-ce pas? Alors, moi je me dis, qu'est-ce que j'aurais aimé, qu'est-ce que j'aimerais, n'est-ce pas? De voir, de passer une journée, rien qu'une journée avec Jésus. Vous imaginez 24 heures avec Jésus. Et quand ils rentraient dans les villages où il y avait plein de malades, de démoniaques, et tous repartaient guéris. Alléluia! La foi, je pense, elle serait regonflée à bloc. Mais est-ce que Jésus a changé? Qu'est-ce qui fait la différence alors? Est-ce que ce n'est peut-être pas que nous avons trop négligé ce que le Saint-Esprit souhaite accomplir dans notre vie et que nous, on a focalisé dans une seule direction, alors que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit agit avec sagesse et qu'il amène où il le souhaite parce que c'est lui qui doit œuvrer et à nous d'être réceptifs. Alors, de là l'importance pour une église de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais la deuxième chose, c'est aussi celle de la manifester, cette présence. Parce qu'on peut tous dire, on a reçu, Mais il est question de manifester le baptême du Saint-Esprit. Il est question de manifester la puissance du Saint-Esprit et aussi de manifester notre soumission à Dieu parce que ça va de pair. Alors, déjà, la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien et aussi au sein de l'Église, c'est une marque d'appartenance. 1 Jean chapitre 4, verset 13. 1 Jean chapitre 4, verset 13 nous dit « À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, ce qui nous a donné son esprit. » C'est pour nous un acte incroyable, immérité, que de recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est celui aussi qui fait en réalité de nous des enfants de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup peuvent se dire enfants de Dieu, mais portent-ils dans leur vie cette marque du Saint-Esprit qui en réalité atteste, vous connaissez bien ce texte, de ces hommes qui viennent, ces hommes et ces femmes, ces personnes qui viennent frapper à la porte au moment des noces. Mais nous avons fait des miracles en ton nom. Mais nous avons parlé en ton nom. Mais nous avons fait ceci et cela. Qu'est-ce qu'il répondra ? Le maître, je ne vous connais pas. La présence du Saint-Esprit nous rend en réalité connaissables, reconnaissables et par le Seigneur. Et aussi parce que c'est le Saint-Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'absence de la vie de l'Esprit de Dieu indique un état de mort spirituelle. Quand on parle d'église, je pense qu'on comprend bien que ça va au-delà d'un bâtiment. Il n'est pas question de bâtiment. Quand Jésus dit qu'il bâtira son église, il n'était pas question pour Jésus d'ouvrir une entreprise de construction, ni de matériaux. Il n'était pas dans une idée de construire des lieux de culte. Ce que Dieu voulait, et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, c'est pour bâtir une église qui est formée d'hommes et de femmes dont on fait partie. Mais l'absence de la vie de l'Esprit indique quelque chose quand même. Romains chapitre 8, versets 5 à 9. Romains chapitre 8, versets 5 à 9. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit ont celle de l'Esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, et l'on est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, nous dit la parole de Dieu. Il n'y a pas de possibilité de faire un petit peu ou à 50%. Il est question pour nous de manifester la vie de l'Esprit. Il n'y a pas de compromis entre la vie de la chair et la vie de l'Esprit. Alors certes, on pourrait se dire, mais alors la sanctification, c'est une œuvre qui s'accomplit dans notre vie jour après jour. Amen. La nouvelle naissance, elle nous parle d'un salut reçu par grâce et c'est un salut immédiat. Néanmoins, toute notre vie nous amène à ce travail, à ce combat, à marcher dans la sanctification. Mais il est question aussi pour nous, non pas d'arriver à atteindre une sanctification par nos propres efforts, parce qu'on serait vite raplapla. On n'y arriverait pas. On a besoin et du secours, et du soutien, et de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Et cette œuvre du Saint-Esprit doit se manifester tous les jours de notre vie. Vous comme moi, on a eu peut-être l'occasion de visiter des lieux dits de culte, dans lesquels on a senti froideur, où on a senti qu'il n'y avait plus de vie, certes des lieux dont les structures sont belles, ça dépend les goûts, n'est-ce pas ? Certainement historiques, mais spirituellement mortes. Il m'est arrivé de visiter certaines cathédrales. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus vivant dans un cimetière que dans une cathédrale. Pourquoi ? Parce que malgré tout ce qui pouvait se tenir, ce n'avait qu'une forme de religiosité. Mais tout était loin de la vie de l'esprit. Alors qu'on peut se trouver dans un lieu qui n'a pas forcément de murs, qui peuvent avoir des tableaux, des dessins ou je ne sais pas quoi. Mais il y a une telle présence du Saint-Esprit. Et c'est là que Dieu est présent. Donc, ce qui doit véritablement être manifesté dans la vie d'Église, c'est pas seulement le fait de recevoir le Saint-Esprit, mais de vivre cette vie de l'Esprit, qui nous amène à vivre autrement qu'on aurait l'habitude de vivre, qui nous amène quand même à remettre en question nos propres idées. Moi, je me dis que si Jésus avait dû proposer à ses disciples d'organiser le jour de la Pentecôte, imaginez, si Jésus avait fait un sondage en disant, voilà, on va préparer le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que vous en pensez ? On aurait eu certains, peut-être, qui ont un caractère plutôt réservé, de dire surtout, surtout, pas qu'on nous entende. Et d'autres qui auraient dit, mais non, il faut qu'on nous entende partout. Mais ce qui est beau, c'est que ce que Dieu veut faire, il le fait au-delà de notre avis personnel. Et quand on voit le fruit de ce que ça produit, on ne peut que dire, ô Seigneur, tous les jours, amen. D'ailleurs, il y a eu combien de milliers de conversions le jour de la Pentecôte ? Est-ce qu'on ne serait pas tous là pour dire, Seigneur, tous les jours ? Et pourtant, je suis certain que parmi tous ceux qui ont vécu ce moment, ont dû être transportés, je dirais, comme si un fleuve, comme si un tsunami les emmenait, sauf que ce qui a produit dans leur cœur n'était pas quelque chose comme s'ils avaient été pris en otage, parce que le Saint-Esprit ne nous prend pas en otage. Ils avaient dû vivre quelque chose qui avait transformé leur vie au point de dire, Seigneur, merci de ne pas avoir tenu compte de tout ce que moi j'aurais pu mettre comme obstacle à cette journée merveilleuse. Donc encore aujourd'hui, nous sommes amenés, nous aussi, à nous dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Je me rappelle du témoignage d'un pasteur qui me disait qu'un jour, à un culte du dimanche matin, un homme est arrivé qui était possédé, cet homme. Et alors, au moment qu'il y a eu la prédication, cet homme a manifesté malheureusement ce qu'il subissait lui-même. L'esprit maléfique qui était sur cet homme s'est révélé parce qu'il ne supportait pas la présence de Dieu. Et donc, ils ont prié pour cet homme, il a été délivré. Et à la fin de la réunion, une brave dame est allée voir le pasteur en lui disant, « Pasteur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le dimanche matin qu'on fait ce genre de choses. » Et le pasteur lui répondra, « Ma chère sœur, on verra un petit courrier au Saint-Esprit et tu diras qu'il faut organiser les choses autrement. Tu verras la réponse. » Moi, je crois que Dieu est et demeure aux commandes de toutes choses. À nous de nous dire, « Seigneur, est-ce que nous voulons vraiment vivre de la vie de l'Esprit ? Est-ce qu'on est prêt à être un tout petit peu, excusez-moi, un tout petit peu, bouleversé dans nos fonctionnements ? Vous savez, quand on se lève, je ne sais pas vous si vous êtes habitudinaire. Moi, tous les matins, j'aime bien boire mon petit jus d'orange. J'aime bien mon petit café. Ma petite confiture aux oranges, ma petite confiture au citron. Hein, voyez les habitudes. Et je veille à en avoir toujours un ou deux pots de réserve. Il faut bien que je prenne soin de moi, non ? Hein ? Et j'aime bien, j'ai mes petites habitudes. Est-ce que vous êtes un peu comme ça ? Oui ? Et si un jour le Seigneur me dit, tu manges pas de confiture d'orange et de citron, voilà, j'ai préparé pour toi confiture d'abricot, dit notre sœur. Mais je suis certain que le Seigneur a prévu ce que j'ai de besoin, non pas ce que je veux, ce que j'ai de besoin. Alors est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, donne-moi ce que j'ai de besoin? Le dimanche matin, quand on va à l'église, le mardi, le vendredi, Seigneur, donne-moi ce que j'ai de besoin, non pas ce que je veux. Autrement, si c'est pour avoir ce que je veux, mais excusez-moi, je reste chez moi. Non? Mais si je viens auprès du Seigneur, c'est pour recevoir ce que j'ai de besoin. Et peut-être que le message ce jour-là, il va m'embêter. Peut-être que le message ce jour-là, il va me bouleverser. Mais parce que c'est ce que j'ai de besoin. Si je dois chercher un message qui me fait ressentir que je suis bien dans ma condition, excusez-moi, j'ai perdu mon temps. Dieu soit béni parce que le Saint-Esprit va au-delà. Romains chapitre 8, versets 14 à 16, il nous parle de cette filiation. Romains chapitre 8, versets 14 à 16, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce et quel miracle pour nous d'avoir ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux qui vient et qui répond à notre cœur. Amen. Béni soit le Seigneur. Il est question pour nous du marque de filiation. Mais j'aimerais rappeler que le tout, ce n'est pas de dire je suis enfant de Dieu, mais c'est d'agir comme tel. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Il nous dit quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Quand Dieu a envoyé son Fils, et quand son Fils a pris cette place de, pas seulement d'homme à la croix, mais aussi de Dieu à la croix, ce qui a toujours motivé les choix de Jésus, c'est de respecter la volonté du Père, d'être soumis au Père. Si nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu, pouvons-nous agir ou œuvrer avec un esprit qui ne serait pas celui de la soumission à Dieu? On serait en contradiction, n'est-ce pas? Alors on peut dire oui, mais non, on est tous enfants de Dieu. Mais est-ce que dans ta vie, est-ce que tu te soumets à la volonté de Dieu? Vous savez, quand on parle de soumission, en général, c'est un mot qui est très mal reçu, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Parler de soumission à Dieu. Et aujourd'hui, certains vous diront, je n'ai ni Dieu ni maître. Et c'est pour ça que tu es perdu. Mais si tu veux être et attaché à Christ, tu ne peux pas faire autrement que de te soumettre de la même manière que Christ l'a fait. Et si je considère que je suis rempli de la vie de l'Esprit, frères et sœurs, et que je n'agis pas en pleine soumission à la parole de Dieu, il y a un problème au plus profond de moi-même. Je ne suis pas cohérent. Comment être rempli de l'Esprit de Dieu et agir d'une manière qui n'est pas celle de la soumission à Dieu. Quand on agit avec révolte, alors je ne dis pas que ça ne peut pas arriver parfois qu'on n'est pas forcément convaincu du premier instant. Non? Il peut y avoir des moments de situation qui font dire, Seigneur, je ne comprends pas. Ce que tu me dis, je ne le comprends pas, Seigneur. Alors, ce n'est pas question de se mettre en guerre avec Dieu. On a besoin que Dieu nous explique et croyez-le, Dieu nous fera comprendre au moment venu. Néanmoins, là, Dieu nous dit, maintenant, tu fais ce que je te demande. Vous vous rappelez cet homme, Pierre, qui se trouve sur la terrasse. Il était en train de passer un moment de jeûne et prière. Il arrive au bout de son jeûne et prière. D'ailleurs, ils étaient en train de lui préparer un petit rencard. Et là, alors qu'il est dans un moment paisible, tranquille, je ne sais pas combien de réunions il a dû faire, combien d'entretiens il a pu avoir cette journée-là, il est tranquille sur sa terrasse, il se dit, va finalement, ah, je respire. Et Dieu vient et lui montre quelque chose qui sort de la conception que Pierre avait jusque-là. La parole de Dieu nous dit qu'il vit un rat descend du ciel avec des animaux considérés impurs. Et Dieu lui dit, tue et mange. Non pas une fois, non pas deux fois, mais trois fois. Et après quoi Dieu lui dit, maintenant tu vas suivre ces hommes, fais ce que je te dis. Au départ, Pierre, il aurait pu se dire, et comme il l'a fait, mais jamais j'ai mangé de choses impures. Pourquoi tu m'exposes à cela? Et il y a des moments dans notre vie qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu m'exposes à cette situation. Non pas une, non pas deux, non pas trois, Seigneur, et tu continues. Parce qu'il est question pour nous d'apprendre à obéir. Et Pierre, il obéira. Il les suivra et pourtant il va se retrouver à devoir rentrer dans la maison de quelqu'un qui n'est pas juif. Et la loi lui disait qu'il n'avait pas le droit. Mais en réfléchissant à la vision que Dieu lui avait donnée, de ne pas considérer impur ce que Dieu avait purifié, pour Pierre est un changement et un revirement profond de sa vie, mais aussi de son ministère. Amen. Et il est question pour nous d'accepter que Dieu puisse nous faire voir les choses autrement, tout en restant obéissant à sa volonté. Et certainement, frères et sœurs, quand après on plonge nos regards dans la parole de Dieu, on se rend compte que tout avait été préparé, prévu d'avance par Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et quand Pierre, il a compris cette révélation de la part de Dieu, il n'est pas rentré dans cette maison comme quelqu'un qui se sentait dans la crainte de se souiller, de toucher quoi que ce soit qui était impur. Non, mais il est rentré dans cette maison remplie du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est la raison qui a fait que Dieu s'est servi de lui et qu'il y a eu quand même les baptêmes du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Gloire à Dieu! Mais, frères et sœurs, il est question de comprendre la puissance de Dieu, la vie de l'Esprit, dans un but bien précis. D'ailleurs, nous avons bien lu dans le texte de notre méditation qu'il serait rempli de puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors la puissance de l'Esprit, certes elle nous est donnée déjà pour notre vie personnelle, elle nous est donnée pour la vie d'Église, mais il y a un but bien particulier qui est celui de témoigner, et j'ai mis dans mes notes, pour que nous soyons une église qui témoigne à 380 degrés. Amen. Il n'est pas question de nous de dire, moi je me concentre que à ce type d'auditoire, que à ce type de personne. Vous savez, si on témoigne que à ceux que nous on a choisis, on risque de laisser se perdre plein de monde, non? Seigneur, moi je témoigne que aux personnes qui sont, voilà, 1m75, pas plus. Ceux qui sont tout minces, pas plus. Les cheveux comme ça, pas plus. Mais heureusement que Dieu n'a pas mis toutes ses limites, parce qu'il n'y aurait pas plus. Mais il est question pour nous de dire, Seigneur, témoigner est un ordre divin. Ésaïe chapitre 43, versets 10 et 11. Ésaïe 43, versets 10 et 11, il est dit, « C'est vous qui êtes mes témoins, oracle de l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y aura pas, c'est moi. Moi, je suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. » La première phrase, c'est vous qui êtes mes témoins. Alors, pour nous, un privilège ou une charge? Est-ce que c'est plus un privilège d'être témoin de Dieu? Ou on sent juste le fardeau? Certains le font vivre comme un fardeau. Si tu ne témoignes, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, moi, la parole de Dieu me fait ressentir que c'est plutôt un bonheur, une grâce qui nous a été faite. Alors certes, il y a aussi une part de devoir. Parce que comment garder pour nous une vérité qui peut libérer, qui peut guérir? Malachie chapitre 3, versets 16 à 18. Malachie chapitre 3, et versets 16 à 18. Il dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Waouh ! Privilège, mais aussi responsabilité. Parce que tout cela, il dit la parole de Dieu, c'est noté, puisque il fut attentif, il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit. Waouh ! Ce livre, il existe. Et Dieu écrit dans ce livre toutes les fois, frères et sœurs, que chacun d'entre nous, nous rentrons pleinement. Parce que ce que nous faisons, premièrement, nous le faisons pour Dieu. Mais parce que Dieu voit et donne de la valeur à notre service. Amen. Nous, parfois, on se dit, mais personne ne le voit. Seigneur, j'ai témoigné à une personne aujourd'hui, mais il n'y a pas de fruit. Seigneur, je ne vois rien. Mais moi, je voudrais vous dire, Dieu le voit. Et le plus important, c'est que Dieu l'ait vu. Après, une fois que la semence elle est jetée sur la terre, ce n'est plus de notre responsabilité. Mais le fait de témoigner, c'est quelque chose qui fait de nous, à un certain moment, nous rentrons dans cette, excusez-moi, dans cette case qui fait la différence. Puisqu'il est question de faire à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Que Dieu nous garde de tomber du mauvais côté. Alors il est question pour nous, pas seulement de témoigner, mais de vivre en témoin. Jérémie chapitre 20, verset 9. Jérémie chapitre 20, verset 9, il est question de véritable témoignage qui est alimenté par un feu intérieur, le feu de l'esprit. « Si je dis je ne le ferai plus, mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os, je me fatigue à le contenir et je ne le puis. » Comment contenir tout ce que Dieu fait dans notre cœur? Comment pouvoir garder la bouche fermée face au besoin? Et il est question de partager un véritable témoignage qui est vécu avant d'être communiqué aussi. N'est-ce pas? Le psaume 66, verset 16, dit « Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. » Parfois, on a le sentiment que si on ne connaît pas une bonne partie de la parole de Dieu, si on ne connaît pas les références par cœur, si on ne connaît pas les textes par cœur, on ne peut pas témoigner. Mais le plus beau témoignage est de ce que Dieu a fait déjà pour vous, non? Et je suis certain que du moment qu'on communique exactement ce que Dieu a fait pour nous, il y a là l'œuvre du Saint-Esprit qui rend le cœur, qui entend notre témoignage, sensible et ouvert à l'action de Dieu. Néanmoins, je crois qu'on est conscient que témoigner, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il est une question aussi de savoir qu'on rentre dans un terrain qui est celui de l'ennemi, qui est celui de celui qui retient les âmes, c'est un terrain dans lequel on doit être toujours préparé, frères et sœurs, et le texte de 1 Pierre chapitre 3 versets 15 et 16. 1 Pierre chapitre 3 versets 15 et 16 dit: Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ et le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience afin que la même là où on vous calomnie, ce qui diffame votre bonne conduite en Christ soit confus. Que le Seigneur fasse qu'il y en ait qui soient confondus à cause du bon témoignage que nous avons. Certes, de plus en plus, on peut à quelque part entendre des personnes ne pas saisir le pourquoi du comment des réalités qu'on vit autour de nous. Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu penses vraiment? Et si Dieu était véritablement ce qu'il est, pourquoi il a permis ceci? Pourquoi il a permis cela? Et demain, peut-être, on va empêcher à tous ceux qui croient en Dieu de continuer à le proclamer. Pourquoi? Parce que ça dérange. D'ailleurs, attendons-nous, ça va arriver. N'est-ce pas? Il y a une deuxième référence qui est venue sur mon cœur, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 12, les versets 12 et 13. Luc chapitre 12, versets 12 et 13, il est écrit: « Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera aux prisons, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. » Luc, chapitre 12, versets 12 et 13. Je vous ai noté la référence au stylo. Je vous la redonnerai tout à l'heure. Luc, chapitre 12, versets 12 et 13. Et il est question pour nous de considérer que tout ce qui va se produire, ce sera malgré tout une possibilité pour nous de témoigner. Alors, où témoigner? Puisqu'il est question pour nous de témoigner à 380 degrés. Le texte, il nous parle de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est où? Je ne parle pas de la Jérusalem en Israël. Votre Jérusalem, c'est là où vous habitez. C'est la ville où vous êtes, le quartier où vous habitez, n'est-ce pas? Donc, le premier lieu où nous devons être des témoins, c'est là où Dieu nous a placés. Il est question dans toute la Judée. Ça veut dire que le Seigneur ne me dit pas « tu dois rester enfermé entre quatre murs, tu n'as que ta ville ». Non, 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 ça ne suffit pas. Tu peux être et tu dois être un témoin aussi dans toute la nation. Ah ben là, déjà, c'est différent. Non, non, mais c'est pas terminé. Il est question d'aller dans la Samarie, toute l'Europe. Ah bon, ça fait beaucoup quand même. Oui, oui, mais c'est pas terminé. Jusqu'aux extrémités de la terre. Où est-ce que je dois être un témoin? Partout. Alors, certains endroits, c'est à moi qui revient la responsabilité de témoigner. D'autres endroits, mais ça sera à tel frère ou telle sœur. Et puisque nous formons qu'un seul corps, nous remplissons tous ensemble ce mandat. Et là où peut-être moi, je ne pourrai jamais y aller. Mais je peux collaborer, je peux aider, je peux soutenir l'œuvre de Dieu dans des pays où l'Évangile n'est pas forcément reçu de la bonne manière. Mais Dieu a disposé des cœurs à agir et aller justement dans ces pays, et quand ses frères et ses sœurs témoignent, puisque nous les soutenons premièrement spirituellement, dans la prière, mais aussi peut-être financièrement, par des soutiens, en les encourageant, en leur donnant les moyens de faire le travail qui doit être fait, puisqu'on considère que c'est aussi de notre responsabilité, frères et sœurs devant le Seigneur, nous apportons tous un fruit qui honore Dieu. Je me rappelle du témoignage que j'ai entendu il y a quelques années en arrière au Népal. Il y a une fois par an, il y a une fête particulière que les Népalais vivent pendant, je crois que c'est une semaine. Toutes les activités sont arrêtées. Toutes les activités sont arrêtées. Et les chrétiens, pour une question de sécurité, se retrouvent ensemble et pendant une semaine, ils vivent sous les chapiteaux Et depuis le matin jusqu'au soir, ils font des temps de culte, des temps de prière et des temps d'enseignement. Et vous les voyez tous là, à genoux, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas tout le confort que nous, on peut connaître. Et quand cette information a été donnée, il y avait un frère qui habitait Singapour et qui s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour tous ces frères et sœurs qui se retrouvent là et qui n'ont pas les moyens de manger? Comment faire? Eh bien, il a eu à cœur pendant la semaine que tous ses frères et sœurs étaient là, de donner les moyens d'acheter du riz, de les alimenter. Et Dieu a béni ce frère, et ce frère a été de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Lui, il n'a pas pu aller au Népal, mais ce qu'il a fait a honoré Dieu. Et ce que ses frères et sœurs vivent là-bas, le témoignage qu'ils rendent, mais certes, ce frère en prend aussi, à quelque part, une part dans le fruit qui honore Dieu. J'aimerais terminer juste avec ce texte d'encouragement que Dieu va donner à un homme bien connu, l'apôtre Paul. Cet apôtre qui, après avoir été lapidé, laissé pour mort, dans une ville où des frères l'ont entouré, l'ont aidé à rentrer dans la ville, il a dû s'échapper par la muraille. Et finalement, l'apôtre Paul, blessé de tous les côtés, il se retrouve, il part plus loin. Et vous savez, certaines blessures, que ce soit physique, que ce soit morale, laissent des traces. Comme on peut aussi, nous, en garder quand quelqu'un nous parle d'une manière qui est pas toujours gentille, n'est-ce pas? Voire même nous rejeter. Et ça peut venir et des personnes étrangères à notre vie personnelle, mais aussi de ceux de notre famille. Et l'apôtre Paul recevra une parole de consolation de la part de Dieu. Et le Seigneur dit à Paul, Actes chapitre 18, versets 9 et 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Cette parole d'encouragement, prenons-la aussi pour nous, en nous disant, Seigneur, je compte sur ta grâce, je compte sur ta puissance, je compte sur ta présence à mes côtés, Seigneur. Et je sais que tu as un nombre, Seigneur, incalculable d'hommes et de femmes qui ont besoin de te connaître. On va incliner nos têtes et j'aimerais juste vous inviter chacun de manière personnelle, mais on va le faire aussi ensemble, de dire, Seigneur, remplis-moi de ta puissance, mais accorde, Seigneur, aussi à ton serviteur, à ta servante, Seigneur, ce feu, Seigneur, nécessaire pour le témoignage. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'action du Saint-Esprit, merci parce que, Seigneur, nous ne voulons pas seulement regarder dans un sens de ce que tu as voulu nous donner, nous communiquer, mais nous voulons rester sensibles, Seigneur, à ta parole, pour expérimenter, vivre ce que la première Église a vécu. S'il y avait des conversions, c'est parce que ton nom était annoncé. C'est parce que l'Église, elle vivait, Seigneur, dans cette plénitude de l'Esprit. Et encore aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas question de bâtir une autre Église. C'est toujours la même, avec les mêmes, Seigneur, les mêmes bases, les mêmes fondements. Seigneur, nous désirons de tout notre cœur être et vivre selon ta volonté, être cette église remplie du Saint-Esprit, être cette église qui manifeste la vie de l'Esprit, être cette église qui témoigne et qui voit des âmes se tourner vers toi. Sers-toi de chacun de nous, Seigneur, et que ta gloire resplendisse dans nos vies. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.